D'abord, nous vîmes courir la valetaille, les gens de classe inférieure, les plus pauvrement montés de la tribu. De petits chevaux sans tournure, des cavaliers sans luxe, de mauvais fusils rouillés, quelquefois à bout de ficelle au lieu de bride. De pareils écuyers n'ont pour se rendre intéressant que la vitesse. Ils montent leurs chevaux comme ils monteraient les oiseaux rapides, ne les gouvernent point, les maîtrisent à peine, et les laissent voler de toute la légèreté d'un galop qui ne fait pas beaucoup plus bruit que des ailes. La première bête venue leur est bonne, fût-elle à demi dressée, n'eût-elle pas encore l'âge de servir, pourvu qu'elle ait l'allure vive et la plus méchante arme leur convient, pourvu qu'elle contienne la poudre et fasse explosion sans éclater. Quand ils n'ont ni bottes ni éperons, ils se servent de la houssine et du tranchant de l'étrier. À défaut de cravache, ils ont leur cri de « Ah !» sorte de clameur irrésistible pour des chevaux aussi excitables qu'ils sont dociles. Oh, il ne s'agit point de parader, de faire des prouesses. Il suffit de courir, ventre à terre, de décharger ses armes en atteignant le but, et de recueillir en passant devant la tente où sont les femmes, les you-you qui répondent en manière d'applaudissement aux salves dont la mousqueterie les salue. Toutes les classes et toutes les fortunes ont droit de prendre part à ces jeux. Le peuple le plus aristocrate de la terre se montre en pareil cas plein de bonhomie. Chacun s'amuse pour son compte. Le valet court à côté de son maître, s'il est assez bien monté, pour suivre son allure. En vertu de ce principe applicable aux jeux militaires, que devant l'ennemi il n'y a ni distinction de casque, ni supériorité de naissance, un cavalier vaut un cavalier, et le galop d'un cheval doit égaliser tous les rangs. Ce prélude, au reste, fut très court, et ne dura pas plus de quelques minutes. Il mit les spectateurs en haleine, et fit sentir aux chevaux l'odeur de la poudre. Le caïd avait pris place au pied du drapeau, ayant près de lui ses deux fils, deux jolis enfants, l'un de 6 ans, l'autre de 10. L'aîné, costumé, coiffé, botté comme un jeune soldat, avec de longs bas de cuir jaune, et trônant dans une attitude princière, comme si le spectacle eût été donné en son honneur, se renversait pour être plus à l'aise, sur de vieux serviteurs à barbe grise qui s'étaient couchés à plat ventre de manière à lui servir de coussin. Des cris éclataient au fond de l'hippodrome où la cavalerie prête à tirer s'organisait par petits pelotons. Le premier départ fut magnifique. 12 ou 15 cavaliers s'élançaient en ligne. C'étaient des hommes et des chevaux d'élite. Les chevaux avaient leur harnais de parade. Les hommes étaient en tenue de fête, c'est-à-dire en tenue de combat, culottes flottantes, haïcs roulés en écharpe, ceinturons garnis de cartouches et bouclés très haut sur des gilets sans manches de couleur éclatante. Partis ensemble, ils arrivaient de front, chose assez rare pour des Arabes, serrés botte à botte, étriés contre étriés, droits sur la selle, les bras tendus, la bride au vent, poussant de grands cris, faisant de grands gestes, mais dans un aplomb si parfait que la plupart portaient leurs fusils portés en équilibre sur leur coiffure en forme de turban, et de leurs deux mains libres manœuvraient soit des pistolets, soit des sabres. À 10 pas de nous, et par un mouvement qui ne peut se décrire, tous les fusils voltigèrent au-dessus des têtes. Une seconde après, chaque homme était immobile et nous tenait en joue. Le soleil étincela sur les armes, sur les broderiers, sur des orfèvreries. On vit dans un miroitement rapide briller des étoffes, des selles brodées, des étriers et des brides d'or. Ils passèrent comme la foudre en faisant une décharge générale qui nous couvrit de poudre et les enveloppa de fumée blanche. Les femmes applaudirent. Un second peloton les suivait de si près que les fumées des armes se confondirent et que la seconde décharge répéta la première comme un écho presque instantané. Un troisième accourait sur leur place dans un nouveau tourbillon de poussière et tous les fusils abattus vers la terre. Il était conduit par le nègre Kaddour, un cavalier accompli, célèbre dans la plaine où sa jument grise a fait des miracles. Oh, cette jument est un petit animal efflanqué, très souffle et fluet, couvert de souris, complètement rasé, sans crinière et dont la queue tondue ressemble au fouet des chiens errants. Des argenteries fanées, de grelots, des amulettes, une multitude de chaînettes pendantes, la décoraient d'une sorte de parure originale pleine de bruissements et d'étincelles. Kaddour était en veste écarlate, en pantalon de couleur pourpre. Il portait deux fusils, l'un sur la tête, l'autre dans la main gauche. Dans la droite, il avait un pistolet dont il fit feu, puis il fit feu de ses deux fusils, l'un après l'autre, en les changeant de main, les lança comme un jongleur fait de deux cannes, et disparut, étendu sur le cou de sa bête, son menton touchant la crinière. La mousqueterie ne cessa plus. Coup sur coup, sans relâche, les cavaliers se succédèrent à travers un rideau de poussière et de poudre enflammée, et les femmes, qui continuèrent de battre des mains et de pousser leurs glapissements bizarres, put respirer pendant une heure d'attente l'atmosphère d'un champ de bataille. Imagine ce qui ne pourra jamais revivre dans ces notes, où la forme est froide, où la phrase est lente. Imagine ce qu'il y a de plus impétueux dans le désordre, de plus insaisissable dans la vitesse, de plus rayonnant dans des couleurs crues frappées de soleil. Figure-toi le scintillement des armes, le pétillement de la lumière sur tous ces groupes en mouvement, les haïcs dénoués par la course, les frissonnements du vent dans les étoffes, l'éclat, fugitif comme l'éclair, de tant de choses brillantes, des rouges vifs, des orangés pareils à du feu, des blancs froids qui inondaient les gris du ciel, les selles de velours, les selles d'or, les pompons aux têtières des chevaux, les œillères criblées de broderies, les plastrons, les brides, les morts trempés de sueur ou ruisselant d'écume, et ajoute à ce luxe de vision fait pour les yeux le tumulte encore plus étourdissant de ce qu'on entend, les cris des coureurs, les clameurs des femmes, le tapage de la poudre, le terrible galop des chevaux lancés d'à toute volée, le tintement, le cliquetis de mille et mille choses sonores. Donne à la scène son vrai cadre que tu connais, calme et blond, seulement un peu voilé par des poussières, et peut-être entreverras-tu, dans le pêle-mêle d'une action joyeuse comme une fête, enivrante en effet comme la guerre, le spectacle éblouissant qu'on appelle une fantasia arabe. Oh, ce spectacle attend son peintre. Un seul homme aujourd'hui saurait le comprendre, le traduire. Lui seul aurait la fantaisie ingénieuse et la puissance, l'audace et le droit de l'essayer. Réduit à des éléments tout à fait simples, à ne regarder dans cette mise en scène surabondante qu'un seul groupe, et dans ce groupe qu'un seul cavalier, la fantasia, c'est-à-dire le galop d'un cheval bien monté, est encore un spectacle unique, comme tout exercice équestre, fait pour montrer dans leur moment d'activité commune et dans leur accord les deux créatures les plus intelligentes et les plus achevées par la forme que Dieu ait faite. Séparez-les, on dirait que chacune d'elles est incomplète, car ni l'une ni l'autre n'a plus son maximum de puissance. Accouplez-les, mêlez l'homme au cheval, donnez au torse l'initiative et la volonté, donnez au reste du corps les attributs combinés de la promptitude et de la vigueur, et vous avez un être souverainement fort, pensant et agissant, courageux et rapide, libre et soumis. La Grèce artiste n'a rien imaginé ni de plus naturel ni de plus grand. Elle a montré par là que la statue équestre était le dernier mot de la stature humaine, et de ce monstre aux proportions réelles, qui n'est que l'alliance audacieusement figurée d'un robuste cheval et d'un bel homme, Elle a fait l'éducateur de ses héros, l'inventeur de ses sciences, le précepteur du plus agile, du plus brave et du plus beau des hommes. De temps en temps, et comme des acteurs de premier ordre sûrs d'eux-mêmes et toujours certains d'être applaudis, des cavaliers couraient isolément ou deux par deux, et alors dans un tel ensemble que les deux chevaux avaient l'air d'être conduits par une seule main ou attelés à un même timon qu'on ne voyait pas. Cela valait qu'on les nommât. C'était Cadour, qui recommençait ses courses avec sa jument taillée comme un lévrier, Djelloul, sur un cheval bai sombre carpassonné de soie cramoisie, Ben Saïd Khelili, tout habillé de rose et montant à cheval tout noir comme un corbeau, Mohamed Ben Daoud, le manchot, vieux débris des anciennes guerres, à qui l'on passait des fusils chargés et qui, ne pouvant plus les mettre à l'épaule, les tirait à bras tendus comme des pistolets. Le vieux Boulois, beau-père du Caïd, courut accompagné seulement de ses trois fils, charmants jeunes gens vêtus à la légère et qui lui servaient de page. Il montait un cheval de haute taille, lourdement équipé, aux larges sabots, à vaste encolure, qui galopait avec emphase comme les chevaux de Rubens, les jarrets pliés, d'une allure arrondie, redondante et retentissante. Lui-même était énorme, grand, gros, ventru, la barbe en éventail, le visage blond, les yeux clairs et ronds, comme ceux des aigles. Il portait avec une ampleur singulière un haïk flottant, que le mouvement de la course amplifiait encore en le faisant voler, et deux ou trois vestes chargées d'or, plus un baudrier d'or, formaient autour de sa taille une sorte de plastron solide, où le soleil rayonnait comme une cuirasse. Il galopait, non pas debout, car le poids de son costume et son embonpoint l'empêchaient de se dresser tout à fait, mais à demi soulevé sur ses étriers, une main posée carrément sur le pommeau de sa selle, l'autre agitant un long fusil, arme magnifique, qu'il dédaignait de charger à poudre. Un sabre kabyle à fourreau d'argent pendait à son épaule gauche et complétait ce terrible harnais de guerre. Après chaque course fournie, les cavaliers revenaient au petit pas ou dans un galop plein d'allure. Ils s'arrêtaient un moment vers le milieu du champ de course, ils faisaient bondir leurs chevaux pour les exciter davantage, les harcelaient de la bride, les éperonnaient sur place et retournaient en paradant se former en bataille à leur point de départ. Au milieu de ce luxe, de ce désordre, de ce bruit, passait et repassait l'aventureux Ammar Ben Arif. Je ne l'avais pas vu depuis la soirée d'Hassan. Je me souvenais du joueur d'échecs, sobre de gestes, froid de parole. Et quand Vandel me dit « Voici Ben Arif !» Oh, je ne le reconnus plus. À cheval, il me parut court, moins élégant que beaucoup d'autres, mais d'une solidité qui n'avait pas d'égal. On le sentait inébranlable, et soit qu'il quittât la selle ou qu'il s'y cramponnât, debout comme assis, même dans le plus périlleux des équilibres, il conservait la puissance de carrure et la facilité d'évolution d'un lutteur. De son visage, à moitié masqué par un pli relevé du haïk, on apercevait que le haut des joues, d'une pâleur ardente, deux pointes de moustaches hérissées et des yeux couleur de charbon en feu. Modestement habillé de drap sombre, sans beaucoup de broderie, mais avec toutes sortes d'armes passées dans la ceinture, il maniait en écuyer consommé un cheval grisâtre dont tout le harnachement, moitié cuir violet, moitié métal, ressemblait à des aciers ciselés. Pour fusil, il avait une arme française à double canon, dans lequel il versait des pleines mains de poudre. Il l'amorçait en courant, et de minute en minute nous le voyions paraître, soit seul, soit accompagné, mais toujours reconnaissable à sa mine un peu étrange, à son cheval tout miroitant d'acier bleuâtre, à la double détonation de son fusil qui nous éclatait en plein visage. Il s'annonçait d'ailleurs par un galop bruyant, car, contre l'usage presque général dans les tribus, son cheval était ferré. Cette course effrénée durait depuis une heure. Amar paraissait aussi infatigable qu'au début. Il n'avait pas mis pied à terre une seule fois et sa bête n'avait pas soufflé une seule minute. « Bia, Benarif !» lui criait-on. « Prends garde à ton cheval qui saigne. Tu l'éventreras, prends-y garde. » Et il répondait seulement « Patience, j'en ai un autre. » Puis il repartait ventre à terre et fournissait un galop, sinon plus rapide, du moins plus impétueux que les précédents. Enfin, par lassitude, mais sans doute par pitié pour sa monture ou par précaution, comme on l'a compris plus tard, il s'arrêta. Il examina les flancs de son cheval, où chaque coup d'éperon se dessinait par un bourrelet de poils hérissés, par des sillons de peau rougeâtre, par des filets de sang, suivant qu'il l'avait piqué plus au vif. Avec un peu d'herbe, il étancha le sang. Avec un peu de terre pétrie de salive, il fit un emplâtre dont il boucha les plaies qui saignaient trop. Et partout où l'animal avait des écumes, il l'épongea rapidement d'un coin de son haïck. Il le dessangla légèrement pour soulager sa respiration haletante. Et par une flatterie singulière, il le baisa sur les narines en l'appelant d'un nom que je n'entendis pas. Puis il sauta sur son cheval de rechange qu'un valet d'écurie tenait en main. C'était un étalon belle cerise, tout frais, tout reposé, complètement équipé comme pour une expédition de guerre. Une longue djebira pendait au panneau de la selle et on voyait passer sous la sangle un sabre de fabrique espagnole à lame un peu courbe, à poignée de corde et sans fourreau. « Mais cet enragé finira par faire des sottises !» observa Vandel en le regardant partir à fond de train. Amar Benarif reparut au bout de quelques minutes, et comme il défilait devant nous, nous saluant à bout portant de ses deux décharges, le caïd lui fit signe de la main et lui dit « Attends un peu, Benarif, je vais courir !» Le soir approchait, la fête allait finir, et je m'étonnais que le caïd fût resté si longtemps sans y prendre part. Il resta chaussé de ses babouches, boucla seulement son ceinturon, releva pour être plus à l'aise le long haïc qui l'enveloppait négligemment et lui donnait, malgré son âge, je ne sais quelle juvénile et hautaine élégance. Il enfourcha son cheval blanc, le même qu'il avait ramené du marché. Trois jeunes gens qui n'avaient pas encore couru l'imitèrent. Lentement, ils prirent du champ, puis s'arrêtèrent. Amar était à sa gauche, un jeune homme, neveu du caïd à sa droite, en tout cinq cavaliers. J'entendis le caïd dire à ses compagnons « Êtes-vous prêts ?» Et les cinq chevaux partirent à la fois. Ils arrivèrent de front et dans l'ordre du départ. Le caïd n'était point armé. Trois coups de fusil retentirent. C'étaient les trois jeunes gens qui faisaient feu. Amar ne tira pas. Rapidement, il posa son fusil en travers de sa selle, rassembla son cheval comme pour le faire sauter, fit un écart à gauche et comme il était à deux pas seulement du premier rang des spectateurs, l'animal, enlevé tout droit, retomba des quatre pieds au milieu d'eux. Il eut un cri déchirant, je l'entends encore au moment où je t'écris, puis des clameurs, puis un tumulte. La foule s'ouvrit, je vis à terre quelque chose de blanc qui roula, puis resta couché. « Ah, le misérable !» s'écria Vornel. « Arrêtez-le !» hurla le caïde qui s'élança sur Amar. Mais personne n'eut le temps de le saisir. Il passa près de nous presque à nous renverser, se retourna pour voir qui le suivait et siffla bruyamment. Son premier cheval, tout fatigué qu'il était, s'échappa des mains du palefrenier et partit comme un trait. Quelques secondes après, nous vîmes dans un flot de poussière un petit groupe de cavaliers lancés à toute brise à travers la plaine. À une petite distance en avant, à portée de pistolet tout au plus, on apercevait Ben Arif, couché à plat ventre sur sa selle, qui piquait droit vers la montagne, et près de lui son cheval de rechange, la selle vide, qui galopait avec la légèreté d'un cheval sauvage. Ce tragique incident fut si rapide que je vis en même temps et pour ainsi dire d'un seul coup d'œil l'écart du cheval, la fuite d'Amar, puis le tumulte des gens qui s'empressaient autour de la personne atteinte et que j'entendis à la fois les cris confus de « Le misérable, arrêtez, courez !» et des voix dans la foule qui disaient « Elle est morte !» Je regardais Vornel, qui comprit mon geste et me dit « Oui, c'est elle. » C'était en effet la pauvre Haoua, qui venait de recevoir en plein visage le terrible choc du cheval d'Amar. Elle n'était pas morte, mais elle avait au-dessus du sourcil droit une blessure béante qui lui labourait le crâne. Le sang qui s'en échappait à flots l'inondait de la tête aux pieds. Elle gémissait faiblement, les yeux hagards, complètement évanouie et les traits décomposés par une horrible pâleur. On la porta dans sa petite tente, on la déposa dans un matelas. Tout de suite, on courut aux cuisines pour y faire rougir des fers, méthode arabe qui consiste à soigner les blessures avec des moxas. Mais le caïd et Vornel qui l'examinaient dirent l'un après l'autre « C'est inutile !» Au bout d'une heure seulement, elle reprit connaissance. Son regard devint mobile et son bel œil éteint nous regarda comme à travers un voile de sang. « Bah, Habibi !» me dit-elle. « Oh, mon ami, je suis tuée !» Elle fit un second effort pour se faire entendre et dit « Il m'a tué !» Il y avait foule autour de la blessée et des attroupements de curieux commentaient, expliquaient avec la plus brillante émotion l'accident qui ne passait aux yeux de personne pour une maladresse de Ben Arif. Il l'a tué, bien tué, me dit Vornel. Il l'a voulu. Peut-être le voulait-il depuis longtemps. C'était sa femme. On le dit ici, et si nous avions été plus curieux, nous l'aurions su plus tôt. Il a tué son premier mari pour l'épouser. Elle l'a quitté en le sachant assassin. Il l'assassine aujourd'hui pour prouver qu'un meurtre ne pèse pas d'un poids bien lourd quand il s'agit d'un désir ou d'une haine. Il était 6 heures à peu près. La fête était finie. La nuit descendit sur ce lugubre dénouement. Je ne m'occupais guère, mon ami, de ce qui suivit, et le reste de cette veillée funèbre peut se raconter en quelques mots. Aussitôt que la nuit fut noire, et tandis que la blessée agonisait dans sa tente, assistée d'Aïchouna, qui la regardait mourir, et de la négresse Asra, qui se lamentait, on servit la diffa et tout le monde alla manger. Pendant 1 heure ou 2 heures, je n'entendis plus que le murmure de la foule attablée sur l'herbe, le va-et-vient des cuisiniers qui portaient les plats. Puis après la diffa vint la danse. Un jeune homme, un enfant de 16 ans, fut choisi pour remplacer Aishuna, qui fut la plus regrettée des deux absentes. De grands feux furent allumés dans la lande, d'immenses feux de broussailles qui jetèrent une flamme claire. Un grand cercle s'établit tout autour, si vaste qu'il touchait d'un côté à la tente des femmes, et de l'autre arrivait presque jusqu'au petit pavillon d'Ashuda, dont personne alors ne s'approcha plus. Deux ou trois bougies à la lueur tremblante éclairaient vaguement le groupe obscur des deux pleureuses, étendues presque à l'étouffée sur le corps pâmé de la mourante. Cependant, le danseur commença de faire à petits pas le tour de l'assemblée. Devant chaque spectateur, il s'arrêtait, exécutait longuement, accompagné par la voix des chanteurs et par les battements de main monotones, la même et régulière pantomime. Chacun, en retour d'un plaisir égal pour tous, lui tendait une pièce de monnaie. Le danseur la recevait, soit sur le front, soit sur les joues, et continuait sa collecte jusqu'à ce qu'il eût le visage à peu près couvert de piécettes d'argent. Entre 11 heures et minuit, les cavaliers revinrent, exténués d'une course de 4 heures, et ne ramenant pas Ben Arif, qui s'était échappé par un défilé de la montagne. La nuit était magnifique d'étoiles, mais excessivement humide et glacée. Jusqu'au matin, nous restâmes assis sur l'herbe et grelottant sous la rosée. Puis le danseur fatigué ne dansa plus. Les chants épuisés s'interrompirent, et les feux continuèrent seuls de pétiller au milieu du silence absolu d'une assemblée de gens accroupis dont les trois quarts au moins s'assoupissaient. Vers 4 heures, et comme un repos profond couvrait la plaine, pour la dernière fois, nous entrâmes dans la tente. Un reste de bougie s'éteignait. Aishuna dormait. Asra, accablé de lassitude, les cheveux en désordre et le visage absolument labouré de coups d'ongles, s'était laissé tomber l'épuisement et dormait. Hawa était morte. La tête un peu de côté, les bras roidis, les paupières fermées, dans un sommeil qui ne devait plus finir, elle était telle à peu près que nous l'avions vue dormir sur son estrade de soie, et toute couverte encore de ses fleurs blanches, qui, cette fois, lui survivaient. Blida, fin d'octobre. Me voilà seul, mon ami. Vandel m'a quitté. Nous nous sommes séparés aujourd'hui même. Il part, je ne sais trop pour où ni pourquoi. Il s'en va parce que la saison l'avertit de se mettre en route, parce que sa destinée est de vivre sur les grands chemins, et d'y mourir, dit-il, lorsque son heure aura sonné. Depuis 3 jours, il m'avait annoncé sa décision. Il a recueilli tout ce qui meublait sa chambre, collections, papiers, notes, et les a transportés ailleurs. Il a renouvelé sa provision de tabac, la seule qui lui fasse quelquefois défaut lorsqu'il se trouve en plein désert. Ce matin, à 7 heures, il était prêt. « Si vous le voulez, m'avait-il dit, nous monterons par les Benimoussa, nous nous arrêterons soit au télégraphe, soit au cèdre, et nous nous quitterons là-haut, c'est-à-dire le plus tard possible. » Je montais donc à cheval et l'accompagnais. Comme nous traversions la place du marché arabe, bon nombre de gens des tribus le reconnurent. « Bonjour, Sidi Boujaba, lui disait-il, où vas-tu ? » « Je pars. Tu quittes Blida ? » « Oui. Passeras-tu par ?» Et chacun nommait sa tribu. « Peut-être, répondait Vandel, s'il plaît à Dieu. » Bon voyage, Sidi Boudjaba, que Dieu t'assiste et que le salut t'accompagne, que ton chemin soit bon. Salut sur tous, reprenait Vernel. J'irai chez vous avant l'été. À l'un, il disait fin décembre, à l'autre après les neiges, à d'autres au contraire pendant les pluies, suivant l'emploi qu'il décidait à chacune des divisions de son prochain hiver. Au moment de franchir la porte du ravin, il s'arrêta comme frappé d'une idée subite et tout à fait nouvelle, et me dit « Savez-vous qu'il y a juste 8 mois, je passais par ici, croyant venir à Blida pour 8 jours. Tu connais la route escarpée que nous avons suivie, cette longue rampe en colimaçon qui commence au lit de l'oued, décrit de grands cercles sur le flanc nord de la montagne, et conduit en 4 ou 5 heures de cheval au dernier sommet qui domine immédiatement Blida. À mi-côte à peu près se trouve la glacière, jadis habité par des Maltais, pourvoyeurs de neige, charbonniers et chasseurs. Il reste 1 ou 2 baraques en matière d'abri, posées au bord de l'étroite esplanade où, par une claire matinée de mars, ensemble, oh, il y a de cela trop d'années pour que je les calcule, nous avons vu voler des aigles et cueilli des fleurs qui ne fleurissent plus en automne. Un peu plus haut, sur un piton qui se voit de Blida, est perché le télégraphe avec ses longs bras articulés qui meurt d'inaction pendant les obscurs brouillards de l'hiver. Et tout à fait au sommet, parmi les cèdres et sur le dernier repos de la montagne, taillé en pain de sucre, subsiste encore un vieux marabout, autrefois ouvert, aujourd'hui barricadé de broussailles, qui cependant n'est pas en ruine, quoiqu'il ait l'air absolument abandonné. Le plateau n'a pas plus de 100 pas d'étendue. Il est environné de cèdres et pavé de roches vives, plates et blanches, et si fortement lavées puis dévorées par le soleil, qu'elles ont pris l'aspect aride et dénudé des ossements qui sont restés longtemps en plein air. Une herbe rude et courte, sorte de végétation métallique, la seule qui puisse vivre sur ce sol de pierre et dans les duretés de ce haut climat, forme avec des lichens grisâtres et des lambeaux de je ne sais quelle mousse épineuse, l'indigente et morne couverture du rocher. Les cèdres sont bas mais très larges, leur feuillage est noirâtre, leur tronc couvert de fer rouillé. Le vent, les neiges, la pluie, le soleil, qui semble encore plus âpre ici que dans la plaine, la foudre qui de temps en temps les frappe et les partage en deux comme de fabuleux coups de hache, toutes les intempéries des saisons extrêmes les criblent de blessures mortelles, et qui pourtant ne les font pas mourir. Leur enveloppe exfoliée les abandonne et se répand en poussière autour de leur tronc. Les passants les ébranchent, les bergers les mutilent, les bûcherons en font des fagots. Ils finissent petit à petit, mais avec l'intrépidité des choses vivaces. Leurs racines ont la solidité de la pierre qui les nourrit, et la sève qui semble fuir devant les nécessités inévitables de la mort certaine se réfugie dans les rameaux qui toujours verdissent et fructifient. Nous nous assîmes au pied de ces vieux arbres respectables et pleins de conseils. La journée était belle et me parut triste, peut-être parce que nous n'étions gais ni l'un ni l'autre. Il faisait très chaud et très calme, circonstance que je n'oublierai jamais, car je lui dois la plus forte impression de grandeur et de paix complète qu'on puisse éprouver dans sa vie. Le silence était si sévère, l'immobilité de l'air était telle que nous remarquâmes le bruit de nos paroles, et qu'involontairement nous nous mîmes à causer plus bas. Mesuré de l'endroit dont je parle au pied du marabout, l'horizon décrit un cercle parfait, excepté sur un seul point où le cône noirâtre de la Bouzaïa fait saillie. Au nord, nous embrassions la plaine avec ses villages à peine indiqués, ses routes tracées par des rayures pâles, puis tout le Sahel, courant comme une sombre bourrelet, depuis Alger, dont la place exacte était déterminée par des maisons blanches, jusqu'aux Chinois, dont le pied s'avançait distinctement comme un promontoire entre deux golfes. Et au-delà, entre la côte d'Afrique et le ciel infini, la mer s'étendait à perte de vue comme un désert bleu. Dans le sud-est, on apercevait la Djurdjura, toujours blanchâtre. À l'opposé, montait la pyramide obscure de Louarens-Nis. 80 lieues d'air libre, sans nuages et sans tache aucune, séparaient ces deux bornes millières posées aux deux extrémités des pays kabyles. À nos pieds se développaient 15 lieues de montagnes échelonnées dans un relief impossible à saisir. Enchevêtrées l'une à l'autre et noyées, confondues dans un réseau d'azur indéfinissable. Nous aurions pu voir Médéa si la ville n'était masquée par le Nador et perdue dans le pli d'un ravin qui lui-même est le versant d'un plateau très élevé puisqu'il y neige. Droite au sud et bien au-delà de ce vague développement de formes rondes, de plissures, de vallées, de sommets, géographie réduite à l'état de carte panoramique du vaste pays montueux qu'on appelle le Tell et l'Atlas, on découvrait des lignes plus souples, à peine sinueuses, tendues comme des fils bleuâtres entre de hautes saillies, dont la dernière à droite porte la citadelle de Bogar. Plus loin encore commençait la ligne aplatie des plaines. Enfin, à l'extrême limite de cette interminable étendue, dans une sorte de mirage indécis où la terre n'avait plus ni solidité ni couleur, où l'œil ébloui aurait pu prendre des montagnes pour des filets de vapeur grise, je voyais, enfin, du moins Vandel les nommait avec la certitude du voyageur géographe, les 7 têtes des Sebarus, et par conséquent le défilé de Gueltestel et l'entrée du pays des Ouled Nail. La moitié de l'Afrique française était étendue devant nous. Les Kabyles de l'Est, ceux de l'Ouest, le massif d'Alger, l'Atlas, les steppes, et directement à l'opposé de la mer, le Sahara. « Voilà mon territoire, » me dit Vandel. « Le monde est à celui qui voyage. » Et il étendit les deux bras par un grand geste qui sembla contenir un moment tout le périmètre visible de cette terre africaine dont il a fait la propriété de son esprit. Pendant quelques minutes, il examina dans le nord un point blanc qui semblait flotter entre le ciel vague et la mer très pâle. C'est un navire qui retourne en France, lui dis-je. Il cligna fortement des yeux pour amortir l'éclat de la lumière qui nous aveuglait et dit « Peut-être, oui, j'en ai vu quelquefois de plus loin. » Puis il tourna le dos à la mer et ne la regarda plus. « Croyez-vous que nous nous reverrons ?» lui demandai-je. « Cela dépend de vous. Oui, si vous revenez ici, non. Si je dois aller vous trouver en France, ou probablement je n'irai jamais. Qu'irai-je y faire ? Je ne suis plus des vôtres. À force de répandre autour de moi ma civilisation, ajouta-t-il en souriant, il ne me reste plus assez pour vivre là-bas. Ou dit-on, vous en avez trop ? Quand le soir approcha, Vandel l'interrogea à la hauteur du soleil et se leva. « Il est 4 heures, ou peu s'en faut, me dit-il. Allez-vous-en. Vous avez juste le temps de vous laisser glisser jusqu'aux sources de l'Oued et de rentrer au trot par le ravin. Moi, je n'ai qu'une petite marche à faire, 2 lieues de pente douce, et je trouve un noir. » Et là-dessus, il siffla sa jument, qui vint d'elle-même, et par une vieille habitude lui présenta le côté du moutoir. Lorsqu'il fut établi dans sa selle en forme de fauteuil, il alluma sa pipe, resta immobile encore un instant sans fumer, ni regarder rien. Puis brusquement, il me tendit sa main osseuse et brune et me dit « Qui sait, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Voilà le grand mot et toute la sagesse humaine. » Presque aussitôt, il descendit lentement, tout à fait renversé sur sa selle afin de soulager la bête, dont les genoux pliaient tant la pente était rapide. « Bonne chance !» me cria-t-il encore. Et comme si un souvenir plus joyeux lui revenait en mémoire, il arrêta sa jument et ajouta « Souvenez-vous de ceci, c'est pas moi qui vous le dis, c'est notre jovial ami Ben Hamida. Tâchez d'agir avec le bonheur plutôt qu'avec 100 cavaliers. » « Adieu, lui dis-je une dernière fois, en lui tendant de loin mes deux mains. » Puis il fit demi-tour et s'éloigna. 5 minutes après, je n'entendis et ne vis plus rien. Un léger vent, le premier souffle qui eut traversé l'air depuis midi, fit tomber 2 ou 3 pommes de cèdre qui roulèrent sur la pente et se perdirent dans le chemin plongeant qu'avait suivi Vandel. Je regardais le sud où il s'en allait, puis le versant nord où j'allais descendre. Si Boudjaba est parti, me dit en me tenant l'étrier l'arabe qui m'accompagnait. Oui, répondis-je. Et toi, où vas-tu? Moi, oh, je vais à Blida et dans 3 jours je serai en France. Il est 10 heures, mon ami. Le clairon des Turcs, je n'entendrai plus, sonne le couvre-feu. Bonne nuit. Et à bientôt !